Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, décoloniser les pratiques scientifiques, c'est le sujet du jour. Imaginez que la Grand Place, par exemple, soit étudiée exclusivement par des équipes issues d'organismes de recherche étrangers, genre chiliens, péruviens, états-uniens, français, congolais ou chinois, et cela sans participation de chercheurs appartenant à des institutions belges. Comment réagirions-nous ? On va parler de sciences hélicoptères, de sciences parachutes, de sciences safari ou encore de sciences néocoloniales au cours de cette émission. Avec cette question centrale, est-il moral, éthique, voire tout simplement acceptable que des projets de recherche soient menés dans des pays du sud global sans qu'aucun scientifique local soit impliqué dans la démarche? On en parle aujourd'hui en compagnie de Gabriel Pinto. Gabriel Pinto est chercheur postdoctoral à l'ULB. Il travaille entre autres sur des questions de météorites. Il nous expliquera tout ça dans un instant. Il vient de publier avec Adrien Tavernier de l'Université d'Atacama un article intitulé « Décoloniser les pratiques scientifiques, le cas du désert d'Atacama au Chili ». On retrouve Gabriel Pinto dans un tout petit instant. Gabriel Pinto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler d'un article que vous avez co-signé dans cette revue de vulgarisation en ligne, revue scientifique de vulgarisation en ligne qui s'appelle The Conversation, avec comme titre « Décoloniser les pratiques scientifiques, le cas du désert d'Atacama au Chili ». On va parler du désert d'Atacama au Chili avec vous. On va aussi parler dans un second temps de cet article hein, que vous signez avec, vous co-signez avec Adrien Tavernier, qui travaille à l'université d'Atacama. Et vous, vous êtes chercheur postdoctoral ici à l'ULB. Vous travaillez sur, en gros, hein, je simplifie, les météorites. Hein, on va en parler. Vous avez fait des voyages nombreux dans votre pays d'origine, dans le désert d'Atacama. On va essayer de comprendre pourquoi dans cet endroit, aussi en Antarctique, là aussi, quelque chose de relativement vierge. Le désert d'Atacama, c'est parce qu'il y a des conditions qui s'apparentent aussi au territoire lunaire, voire martien. Enfin, une fois de plus, vous m'expliquerez ça un peu plus tôt. Plus tard, pardon. On va parler aussi avec vous, Gabriel Pinto, de sciences hélicoptères, de sciences parachutes, de sciences safari ou encore de sciences néocoloniales. Alors c'est un peu vague pour l'instant, mais on va comprendre ce dont il est question exactement. Mais d'abord, essayons de vous connaître un peu mieux. Quels sont donc, je l'ai dit déjà en préalable un peu, les météorites, mais vos sujets d'études exacts et sur quoi travaillez-vous en tant que chercheur postdoctoral?
Maintenant, je travaille dans les météorites. À l'aide-vous, je travaille dans les compositions isotopiques d'oxygène, dans les météorites primitives, spécialement de provenance du désert d'Atacama. Mais maintenant, nous sommes dans un projet pour comprendre les distributions des éléments high siderophile elements, qui s'appellent. Et ces éléments qui sont métalliques sont associés avec les métals. Ils sont aussi distribués dans différentes parties de notre système solaire. Mm-hmm. Et mon projet, c'est l'idée, c'est trouver les distributions de cet élément dans les systèmes solaires intérieurs, que c'est où on va voir les productions de les planètes terrestres.
D'accord. Alors, votre base de recherche principale, une fois que vous êtes sorti des tours d'ivoire des universités, parce que je rappelle juste que vous avez fait, je le dis plus simplement, des études du côté de l'Université de Lorraine à Nancy.
Oui,
c'est ça.
Exactement.
Avant d'arriver chez nous à l'Université libre de Bruxelles.
Exactement. Je vais faire ma bachelor en géologie au Chili, dans le désert d'Atacama aussi, en Antofagasta. Et après, je vais trouver une thèse à Nancy, dans l'Université de Lorraine, et j'ai travaillé avec Yves Marocchi là, dans les compositions isotopiques d'oxygène d'un météorite. Et après, j'ai trouvé cette position postdoctorante ici avec Vincent Deweil, Steven Goderis. On travaille ensemble dans la, dans les météorites, dans les sciences planétaires. Et maintenant, on est en train de chercher et de trouver des choses intéressantes relationnées avec l'astrobiologie. Et c'est quelque chose que c'est super hallucinant aussi.
On en parlera tout à l'heure. Vous avez fait un petit tour il y a un peu plus d'un an, où il y a plus ou moins un an du côté de l'Antarctique. C'est pas donné à tout le monde. Vous irez nous expliquer ce que vous avez été chercher là-bas. Mais d'abord, parlons d'un autre espace désertique qui n'est pas du tout urbanisé, où il y a très peu de gens qui y vont. Hein. C'est le fameux désert d'Atacama au Chili, votre pays d'origine, qui est considéré, dites-vous, comme un bon analogue terrestre de Mars, c'est-à-dire.
Exactement. Et ça, c'est très important parce que le désert d'Atacama, c'est très sec. C'est le désert plutôt sec dans une non-polar région. L'Antarctique, c'est le plus désert de tous les arrières dans le monde. Mm-hmm. Mais après, c'est l'Atacama. Et l'Atacama, il y a des caractéristiques qui sont exceptionnelles pour préserver les matériaux extraterrestres et aussi pour chercher de la vie primitive là. C'est pour ça que dans le désert d'Atacama, il y a tous les rovers, les Curiosity, Opportunity, tous les rovers qui sont maintenant dans les surfaces martiennes.
Ouais, ces robots qui peuvent circuler sur des territoires extraterrestres.
Voilà. Tous ces robots, ils sont déjà entraînés dans les surfaces du désert d'Atacama. Mm-hmm. C'est parce que le désert d'Atacama, c'est très vieux. Il y a des surfaces qu'il y a plutôt de 10 millions d'années. Ça veut dire qu'on va dans le même endroit et cet endroit s'est préservé comme ça. Mmh. Depuis 10 millions d'années avant.
Donc, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de process sédimentaire qui est faire des érosions ou faire des rénovations de la surface. Ça, donc c'est pour ça qu'on a les possibilités de trouver beaucoup de météorites et aussi on peut avoir les possibilités d'étudier des choses ou des paramètres qui sont similaires à les choses ou les paramètres qu'on peut trouver dans les surfaces martiennes aujourd'hui.
Alors des météorites qui se trouvent par exemple dans le désert d'Atacama, elles peuvent se trouver un peu partout, mais sauf que là elles n'ont pas bougé depuis 10 millions d'années, dites-vous. Ça veut dire que ça continue à nous tomber dessus?
Voilà, c'est une très bonne question. On a cherché si c'est plutôt facile de trouver des météorites dans différents endroits ou de tomber des météorites dans différents endroits dans la Terre. Mais normalement, tous les matériaux extraterrestres, ils tombent de formes complètement aléatoires. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a juste l'accumulation des matériaux extraterrestres. Mmh. Et c'est exactement comme on vous dit, on a des météorites dans les surfaces du désert d'Atacama qu'il y a 1 million d'années, 2 millions d'années. Ça veut dire que le matériel extraterrestre, il a tombé dans les surfaces, il a resté là. 1 million ou 2 millions d'années.
Il n'a pas bougé.
Il n'a pas bougé.
Et comment faites-vous pour les repérer? Est-ce que vous arrivez avec un petit détecteur de métaux comme on voit les gens sur les plages touristiques essayer de trouver des choses vous avez du matériel plus perfectionné?
Ça, c'est une bonne question. On utilise beaucoup les patience.
La patience.
Oui, la patience, c'est le deuxième nombre qu'on a dans les déserts. Parce qu'on fait un chercheur systématique. Donc, on est en un groupe, normalement, on sommes 5 ou 6 personnes. Et après, on prend une distance de 5 mètres, 10 mètres. Et après, on marche toute la journée. On marche et après, c'est ce que...
Vous ratissez, comme des gens qui vont nettoyer une plaine ou ce genre de choses.
Voilà, c'est exactement comme ça. Donc après, c'est ce qu'on a une petite météorite sur les chemins.
Mais seulement au visuel alors?
Seulement visuel. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est un détecteur de magnetic susceptibility. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est on produit un magnetic field et après avec ça on peut trouver les métals que c'est dans les roches qu'on a trouvé. Il y a des fois qu'on trouve des roches volcaniques c'est le désert d'Atacama, donc on va voir les Andes, on va voir beaucoup de volcans. Et c'est pour ça qu'on trouve des roches qui sont très similaires à les météorites. Et après, on utilise ce petit instrument et on peut être sûr si c'est un météorite ou si ce n'est pas un météorite. Mais normalement, on n'utilise pas...
Comment est-ce que vous pouvez être sûr?
Parce que l'instrument, il fait un magnetic field. Et après, cette magnetic field, il fait une interaction avec les métal dans les roches.
D'accord.
Après, si est-ce qu'on a beaucoup de métal, on va avoir un numéro qui c'est O. Donc, ça veut dire que c'est un météorite. Si est-ce que les roches, il n'y a pas de métal dans les magnetic field, il ne fait pas l'interaction avec les roches. Et on peut dire... D'accord, ça c'est pas un météorite, c'est un roche volcanique.
Très bien. Alors, vous travaillez sur le désert d'Atacama, sur la Puna sèche aussi.
Oui, on fait quelques recherches sur la Puna sèche.
En deux mots, qu'est-ce que c'est?
La Puna sèche, oui, c'est un area dans le désert d'Atacama, mais c'est un area qui c'est aride. Et c'est aride parce que c'est très haut. C'est plutôt sur 3000 mètres.
Cordillère des Andes.
Oui, c'est les cordillères des Andes, mais aussi c'est pas une montagne parce que c'est haut, les surfaces c'est haut, mais c'est normalement
c'est un plateau.
D'accord. C'est un plateau, c'est quelque chose comme les Himalaya, quelque chose comme ça, c'est un plateau, mais les plateaux c'est déjà très haut.
D'accord.
Et on a voir aussi des spécifiques conditions, que les radiations c'est très haut, et des conditions qui sont spécifiques. Il y a plein de chercheurs maintenant qui sont en train de trouver des endroits pour faire des analogues planétaires dans les Puna sèches.
Voilà, la Puna sèche c'est une région qui se trouve donc à cheval sur quatre pays, si je ne m'abuse, essentiellement le Chili quand même, je pense, mais aussi le Pérou, la Colombie.
Non, c'est Chili, c'est Pérou, c'est Bolivie. L'Argentine et c'est Bolivie.
Ah, oui, ouais, ça. Ouais. Voilà, enfin, comme ça on situe un peu. Et dans ces deux régions correspondent à ce qu'on appelle, dans le jargon scientifique, on a déjà parlé tout à l'heure, des analogues planétaires, des lieux géographiques présents sur Terre, mais qui peuvent s'apparenter à des environnements extraterrestres, là où on peut faire circuler ces rovers, par exemple, dont vous parliez il y a un instant, Gabriel Pinto, hein, des paysages que beaucoup qualifieraient spontanément de lunaires ou de martiens, avec des conditions physico-chimiques proches de ce que la planète rouge aurait pu connaître au cours de son histoire géologique. On peut tester, quoi, dans ce genre de région, des...
On peut tester différentes choses. On peut tester.
Ce sont des laboratoires naturels, dites-vous.
Oui, sur les laboratoires naturels, on peut tester les radiations, les conditions de radiation, les conditions d'aridité, les formations des minéraux qui sont secondaires, sont minéraux qui sont produits par l'oxydation et les conditions extrêmes dans les déserts d'Atacama, qui peut-être c'est similaire à la condition qu'on a trouvée dans la surface de Mars.
Voilà, et la rareté de ces deux régions suscite l'intérêt de pas mal de scientifiques qui viennent du monde entier. Quand on se promène dans le désert d'Atacama, on rencontre quoi? D'autres scientifiques ou parfois quelques groupes de touristes?
Il y a plein de touristes, mais maintenant, c'est pour ça les articles qu'on a publiés, c'est qu'il y a plein des scientifiques qui sont de l'hémisphère nord, qu'ils viennent ici dans le désert d'Atacama. Et le problème, ce n'est pas qu'ils viennent ici pour chercher et trouver des choses nouvelles. C'est la situation qu'ils ne font pas le travail d'avoir une collaboration locale avec des scientifiques locaux dans le désert d'Atacama. Parce qu'on dit, oui, le désert d'Atacama, ce n'est pas populaire, mais normalement, il y a des villes, il y a des universités, mm-hmm. il y a des professeurs de l'université. Et cette professeur aussi, il y a des projets national pour travailler dans les déserts d'Atacama. Et après ce projet national, il n'y a pas de contact avec les projets internationaux des personnes dans les Suisses ou des personnes dans les États-Unis ou des personnes dans notre labo. Et ça, ici, il vient le problème. Parce que les subventions des les projets de recherche, ce n'est pas les mêmes au Chili que dans le nord global. Et après, les chercheurs qui viennent au Chili, ils ne connaissent pas qu'il y a quelqu'un déjà en train de travailler dans cette area, et il y a des frictions là. Parce qu'après, l'équipe d'investigation de l'ENOR fait la publication, et les personnes de Chili qui l'ont déjà les données, ils doivent faire une deuxième publication dans les mêmes sujets, mais ils n'ont pas les mêmes préparations de l'investigation. Donc
et ça veut dire quoi? Parce qu'on va revenir sur ce sujet. Hein. Donc je rappelle que vous avez écrit en compagnie d'Adrien Tavernier, qui est un Français qui travaille pour l'université d'Atacama. Vous êtes un Chilien qui travaille ici en Europe. C'est déjà intéressant de prendre conscience de ça, Gabriel Pinto, même si ça n'a rien à voir. N'importe qui pourrait faire ce constat, celui que vous venez de faire et qu'on va développer maintenant. Vous avez écrit donc un article publié dans la revue scientifique de vulgarisation en ligne qui s'appelle The Conversation, dont le titre est « Décoloniser les pratiques scientifiques ». Le cas du désert d'Atacama au Chili. Alors, vous dites dans cet article, dans le domaine de l'astronomie, celui que vous connaissez à la marge des sciences planétaires et de l'astrobiologie, la mise en place des grands observatoires internationaux sur le sol chilien a permis la structuration d'une communauté locale d'astronomes et représente ainsi un bon exemple de début de coopération fructueuse entre le nord et le sud global. Le début. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. C'est ça que vous essayez de faire comprendre à travers cet article, Gabriel Pinto. Il y a généralement un leadership du Nord global. Il y a une compétition aussi entre les universités et les centres de recherche
dans les mêmes pays du Chili, je pense qu'il n'y a pas... C'est pour ça qu'on remarque les situations avec l'astronomie et l'astrophysique au Chili. Parce que, comme on vient de dire, le désert d'Atacama, c'est très aride. L'accumulation de l'eau dans l'atmosphère là-bas, c'est très peu. Et c'est aussi, il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de...
Jamais.
C'est pas jamais, mais il y a aussi.
Ouais, très peu.
Mais
pas
c'est
comme
très
en Belgique.
Peu. Oui, c'est très peu. Je pense que c'est très sombre nuit, sans nuages.
D'accord.
Il y a quelques nuits.
C'est pour ça qu'il y a les observateurs, le grand télescope, évidemment.
Voilà, c'est pour ça. Et aussi, il y a des montagnes qui sont très hautes. Donc, on est plutôt proche de l'étoile, pour dire ça. Et la majorité de tous les observatoires dans le nord du Chili sont de l'ESA, de l'European Space Agency. Et après, avec l'ESA, il y a beaucoup de collaboration avec les Chiliens parce que le gouvernement du Chili, il a donné les areas dans le désert d'Atacama pour faire les constructions. Mais il y a un exchange.
D'accord.
Il y en a...
Dès le début, il y avait un
dès
accord.
Début, oui, okay. Dès le début, il y a un accord de coopération. Et cet accord de coopération, ça veut dire que les chercheurs chiliens, il y a déjà des nuits qui sont exclusivement pour les chercheurs chiliens. Et c'est juste, je pense que c'est les 5%, quelque chose comme ça, 5 ou 10%. C'est pas beaucoup, mais quand on pense dans l'observatoire du désert d'Atacama, c'est tous les chercheurs du monde qui vont avoir deux nuits d'observation là. Parce que c'est les meilleurs, maintenant c'est l'observatoire spatial, comme les James Webb, les Hubble avant, qui sont très connus aussi, et tout le monde, il veut avoir quelques temps pour faire les observations. Donc c'est très, très compétitif. Et aussi, ça c'est important de dire que les compétitions, ce n'est pas les mêmes. Si on pense dans l'hémisphère sud, nous, tous les pays, il y a avoir l'argent pour faire des sciences que c'est très révolutionnaire. Que c'est la différence que vous pouvez faire ici dans l'hémisphère nord. Et ça, il change les compétitions. Ça veut dire que les projets dans l'hémisphère sud, c'est pas les mêmes ambitieux que dans l'hémisphère nord. Mais avec cette sac 10% qu'on a avoir, il produit que les chercheurs chiliens, ou c'est pas les chercheurs chiliens, c'est les chercheurs qui travaillent dans une université chilienne. Ça veut dire que si est-ce qu'on a à Belgium, ou à quelques personnes françaises qui vont travailler à Chili, ils travaillent dans l'université, ils ont l'accès à ces 5 et 10%. Et ça veut dire que le nom de l'université, il va être plus connu.
Oui. Pardon. Pas de souci. Imaginez que la Grand Place soit étudiée exclusivement par des équipes issues d'organismes de recherche argentins, chiliens, congolais, burkinabés, péruviens, boliviens, sans participation de chercheurs appartenant à des institutions belges, je pense qu'on aurait un petit problème. Et c'est ça que vous essayez de dénoncer en inversant le propos. Vous dites qu'au cours d'une de vos recherches avec votre équipe, vous avez travaillé sur la caractérisation environnementale de la Puna sèche dont on vient de parler, et du désert d'Atacama en Amérique du Sud, donc dans le cône sud, et vous avez l'impression que la plupart des travaux publiés jusqu'alors avaient été réalisés par des équipes étrangères sans aucune implication de chercheurs appartenant à une institution locale.
Oui.
Encore aujourd'hui.
Oui, encore aujourd'hui. On a trouvé cet article, on a publié en 2023 dans Meteoritics and Planetary Science. Mm-hmm. Et c'est très intéressant aussi, parce que les process de publication, on a trouvé ça, on a dit... Oui, il y a beaucoup de publications, que c'est principalement d'équipes de l'ENOR Global, qui ne voient aucune rechercheur local, ou pas de rechercheur, quelqu'un qui fait l'aide pour aller à les fields, et mm-hmm. trouver l'échantillon et tout ça. Rien, il n'y a pas de personne. Et après, on a travaillé dans cet article. On a fait la discussion, on a envoyé les articles à le journal. Et après, on a reçu deux reviews. Et les deux reviews, c'est complètement différent. Et les deux reviews sont des personnes, des chercheurs latino-américains. Et ça, c'est super intéressant parce que ce sont des recherches qui habitent déjà dans Sud-Amérique. Et une de ces chercheurs, il a dit, ça, c'est très important de montrer à la communauté. Et l'autre, il a dit, ça, c'est connu déjà. On sait comment les choses ils marchent dans les sciences. Et on a voir des feedbacks, des commentaires, que c'est complètement différent. C'est qu'il y a un chercheur qui peut-être il est plutôt expérimenté. Il a dit, d'accord, les jeux, c'est comme ça. Rien à faire. Cette information, c'est déjà connue. Mmh. Il y a un autre chercheur qui l'a dit, ça c'est très important d'avoir un numéro pour ça. Parce que je veux déjà avoir la sensation, quand on lit ou quand on fait la thèse ou quand on étudie des situations spécifiques dans un endroit ou tout ça, on voit qu'il y a beaucoup d'investigations qui se font pour équipes étrangères, mais à le même temps, on n'avoir pas un numéro, que c'est 700% des articles qui sont sans collaboration locale.
Et là, on parle évidemment du désert d'Atacama, de l'Amérique latine, parce que c'est votre sujet de prédilection, mais on pourrait reporter ça à d'autres sciences, ailleurs, en Afrique par exemple.
Voilà, c'est ça.
Sans doute encore pire, oui.
Exactement. Et c'est ça, c'est l'important, parce que maintenant, il y a...
C'est des questions éthiques.
Voilà. Il s'est préparé dans différentes disciplines. Il y a aussi des journaux, des périodiques scientifiques qui sont en train de réactionner aussi avec cette pratique scientifique. Mmh. Ils sont en train de dire, d'accord, tu fais une investigation, je ne suis pas sûr, dans les sud-est asiatiques. Et tu dois avoir quelqu'un qui travaille là, sinon les publications ne peuvent pas être acceptées. Et oui, c'est quelque chose qui est éthique, mais c'est quelque chose que les chercheurs, ils ne portent à rien. Je connais personne du Chili aussi qui les dit, si la science sait faire, les sciences sait faire, et ils ne portent à rien qu'en faire la science. Il y a d'autres générations de scientifiques plutôt connectés avec l'éthique, qui les dit, je ne veux aller à chez toi, prendre, je sais pas, les nourritures et faire les analyses de la nourriture que tu vas avoir chez toi sans demander à toi
sans contact,
te partager qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire avec les nourritures que tu vas avoir chez toi. Donc,
Et c'est pour ça qu'on parle de science hélicoptère, de science parachute, de science safari ou encore néocoloniale, des pratiques caractérisées par la mise en œuvre de projets de recherche scientifique, on l'a compris, menés par des équipes de pays développés, que vous appelez Nord Global, dans des pays en développement ou sous-développés, Sud Global, sans aucune implication de chercheurs locaux. Et c'est des termes relativement récents, ça. On parle de ça depuis seulement les années 2000.
Oui, c'est plutôt, cette terme, c'est plutôt les années 2000, mais c'est maintenant... On
ne se posait pas ce genre de questions avant.
Oui, parce qu'avant, c'est principalement les sciences sociales. C'est la même chose qu'on est en train de parler. On va avoir les sciences sociales et on va avoir les sciences plutôt dures, qu'on va avoir les mathématiques, les physiques, les chimiques, tout ça. Et c'est principalement nouveau dans les sciences naturelles. Mais c'est déjà très discuté dans les sciences sociales. Cet topic, c'est très important pour l'archéologie. Dans l'archéologie de tout Sud-Amérique, dans l'archéologie d'Égypte, plutôt des chercheurs de ça sont de l'Allemagne, sont de France, sont des différents pays, historiquement, parce que ce sont des pays qui s'en étaient colonisés pour sept pays. Et après, comme c'est déjà une colonie, tout envoyé quelqu'un qui connaît Darwin, il a traversé tout le monde, il a traversé tout Sud-Amérique, il a trouvé plein de choses. Et c'est ça les choses. C'est pour ça que cette pratique, il vient aussi relationner une interaction avec l'impérialisme dans l'époque. C'est les sciences aussi, il a fait les développe dans un monde qui c'est impérialiste, c'est colonialiste. C'est presque tout le monde, il a avoir déjà une colonie, et tout pour aller là-bas, pour explorer les ressources minérales, pour explorer les natures, les nourritures, etc., etc. Donc,
Et pourtant, des modèles qui permettent d'éviter cette problématique d'appropriation culturelle, hein, c'est le mot que vous utilisez, d'un patrimoine naturel scientifique par des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, existent déjà et constituent des ressources sur lesquelles se fonder afin de limiter ces pratiques de sciences néocoloniales. Il y a quand même des exemples positifs.
Ouais,
même si ce n'est pas encore majeur, quoi.
Ouais.
Non, mais exigences éthiques.
Ouais. Il y a beaucoup de gens, et je pense que déjà les nouvelles générations, quand je parle dans les conférences avec des différents chercheurs, il y a beaucoup les mentalités dans cette problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ils font quotidien les sciences, et dans les quotidiennités, on perd, on forget on oublie pourquoi on fait cette chose, et des fois on dit non, c'est comme ça, je vais faire tout la vie comme ça, c'est ma pratique scientifique maintenant, pourquoi il y a quelqu'un qui me va dire que je ne le peux pas faire comme ça. Et ça, j'ai trouvé aussi des chercheurs en France qui ils sont très très fermés pour dire je vais faire ça pour 40 années, et maintenant tu me vas dire que je ne veux pas aller au Chili en prendre des sédiments et pas partager avec personne au Chili mon données, mon publication, mon résultat. Et on dit
une forme d'individualisme et de compétition, si je comprends bien.
Voilà,
est-ce qu'il y a un cadre législatif que ce soit par rapport à certaines nations, voire internationales?
Rien du tout, rien du tout. Et spécialement au Chili, international, il y a quelque chose relationné avec les météorites, mais c'est la même chose. Comme je t'ai dit, au Chili, on trouve plutôt de 3000 météorites dans le désert d'Atacama, et c'est toujours en train d'incrémenter. Mais maintenant, au Chili, il n'y a pas une régulation des météorites. Il y a tout le monde qui pourra arriver au Chili dans le désert d'Atacama, aller trouver des météorites, prendre les valises, mettre les météorites dans des valises et après rentrer chez lui.
D'accord.
Et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de régulation.
C'est ce que vous avez fait.
Et
c'est ce que vous avez fait, vous?
Ah non, maintenant, au Chili?
Oui,
parce que c'est ça la question. Quand je suis au Chili pour trouver des météorites, je suis allé avec l'expédition française. Et normalement, c'est toutes les années, je suis invité pour l'expédition française. On a trouvé plutôt de 800 météorites dans 12 semaines. Et dans cette semaine, on a parlé de ça avec les feux, avec quelques vents et aussi l'étoile dans le ciel. Et on a parlé que c'est pas possible comme ça. C'est pas possible qu'on trouve dans 12 semaines 800 météorites sans laisser une météorite au Chili. Parce que tous les météorites, ils sont en train de transporter à la France. Et c'est pour ça que c'est...
Appropriation culturelle.
Oui, et on a discuté ça, et de ça, il y a...
C'est vrai que ça fait un peu penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur les sciences sociales ou l'archéologie, plus exactement,
voilà,
qui est,
voilà,
où on prenait les grosses pièces, on les ramenait en Europe.
C'est exactement comme ça, et après on a partagé, et on a avoir très bonne conversation de cette même sujet de l'appropriation culturelle, et on a avoir déjà, on ouvrir un repository au Chili, et 2023. L'expédition, c'est 2022. Et 2023, on ouvrir un repository. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le repository, il peut faire des classifications officielles de météorites. Et après, ça veut dire que les météorites, les échantillons type, il va rester au Chili. Et c'est pour ça qu'on ouvrait ça. Et après, 2023, les dernières de 2023, on a voir déjà les primaires classification des météorites au Chili. Après, les premières météorites qui se trouvent au Chili, c'est 1850. Et maintenant, on peut dire qu'on peut faire les classifications et l'étude de météorites au Chili.
Bon, mais ça avance.
Oui, ça avance. Et ça veut dire que ceci, il avance, mais c'est difficile d'avancer tout seul. Et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça qu'on fait la publication dans cet article de la conversation. Parce que on ne peut pas faire ça tout seul. On doit avoir les collaborations des mêmes scientifiques qui sont en train de travailler là et faire un plan pour les nouvelles générations. J'ai vu voir les nouvelles générations de géologie au Chili en train d'étudier les météorites qui sont trouvées là, et on peut avoir l'accès là au Chili dans les musées, parce que on peut avoir développé de la météoritique et les sciences planétaires dans l'hémisphère sud.
Donc votre objectif, c'est de rendre ces pratiques de sciences néocoloniales visibles, notamment en quantifiant le phénomène, et c'est là afin que la problématique soit débattue au sein de la communauté. Parce que vous dites aussi: dans un contexte où la légitimité des sciences est contestée, c'est la fin de votre article, cet effort d'autocritique émanant de la communauté scientifique ne nous semblerait pas superflu. Effectivement, on voit bien.
Ouais.
Suivez mon doigt, on sait bien qui vous pointez sur les gens qui sont révisionnistes en termes de sciences. Donc il faut quand même faire en sorte que le bloc soit solide.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et des fois, on doit aussi pousser. Parce que dans quelques endroits que la communauté, ils sont déjà établis, c'est déjà tranquille. On doit pousser aussi y parler avec des personnes individuelles et avoir quelques solutions ou quelques petites solutions qu'ils nous peuvent donner une idée de que les choses sont en train d'améliorer.
Décoloniser les pratiques scientifiques, le cas du désert d'Atacama au Chili, c'est donc le titre de l'article que vous co-signez avec Adrien Tavernier de l'Université d'Atacama et vous, Gabriel Pinto, de l'Université libre de Bruxelles. J'ai encore une question à vous poser. Vous avez, en novembre de l'année dernière, donc il y a à peu près un an, troqué votre short pour une doudoune. Vous avez accompagné une équipe internationale qui a mis le cap sur les monts Belgica pour collecter des météorites, hein, c'est toujours évidemment votre sujet de travail, et des échantillons de glace bleue. Vous faites partie de cette équipe, donc Gabriel Pinto, une équipe dirigée par des scientifiques de l'ULB, de la VUB. Vous avez récolté 115 météorites antarctiques pesant plus de 2 kg au cours de l'expédition de la Belgian Antarctic Research Expedition. C'est ça?
Oui, alors, c'est exactement ça.
Comment ça s'est passé? Dites-nous, comment c'est l'Antarctique? Comment ça se passe quand on a l'habitude du désert de l'Atacama d'arriver dans le désert blanc?
Non, c'est incroyable. Mais ce n'est pas très différent d'ici dans l'hiver. C'est très
là, il y a
froid
des nuages.
Ici à Bruxelles, il fait froid aussi. Non, mais dans l'Antarctique, dans les Belgica montagnes, c'est un endroit très, très recondite. C'est pas très exploré aussi. Il y a déjà, je pense que juste 3 expéditions avant, de quelques jours. On a resté là pendant un mois Et avec le temps, tout ça, donc il fait froid, c'est dur l'expédition. On est en train de chercher des météorites toute la journée, avec les vents, dans les blue
Selon le
ice.
même process, vous faites de vous
Oui,
ratissez?
c'est exactement le même process que j'ai expliqué pour les décès d'Atacama, mais ici, on utilise les
Les motoneiges.
snowmobiles, les motoneiges, voilà, c'est ça. On utilise les motoneiges, mais on sommes dans cette expédition, on sommes quatre. Chercheurs et on allait à faire les terrains avec 12 personnes qui travaillent dans les stations Princess Elizabeth parce qu'on a resté là, on a fait des pratiques pour les crevasses, comment rescater quelqu'un qui a tombé dans la
Ah oui.
crevasse, tout ça. J'ai jamais conduire un motoneige et après j'ai appris à conduire motoneige et tout ça. Et on a trouvé beaucoup de météorites aussi et maintenant on est en train de rechercher comment les bactéries ils peuvent arriver dans cet endroit que c'est très loin et comment cette bactérie pour aussi coloniser les météorites. Ça c'est super intéressant et ça c'est une étude qu'on est en train de faire avec l'Espagne et Madrid. J'ai juste revu de Madrid et on a trouvé des vies là-bas. Donc
Ah oui.
c'est de nouveau résultat qu'on a voir et ça c'est super intéressant parce qu'on avait resté là pendant un mois. Je vis jamais un mot dans une roche ou quelques oiseaux, rien de tout, rien de vie. Et maintenant on a trouvé avec l'analyse des lipides
La vie
qu'il y a
microscopique,
ouais la vie microscopique.
microbienne.
Voilà, c'est ça.
Ok, vous êtes resté 2 mois là-bas en Antarctique,
Ouais,
dans la station Princesse Elisabeth.
on a resté quelques jours dans les stations Princess Elizabeth. Et non, c'est tout passé super bien. Les personnes.
Et il n'y a pas de problème là, Gabriel Pinto, d'appropriation culturelle, de colonisation d'un territoire qui, a priori, c'est quoi le statut international
Oui,
de l'Antarctique?
les statuts
C'est
inter.
international, a
Voilà.
priori personne ne peut venir planter son drapeau, même s'il y a des zones qui sont réservées.
Voilà, c'est ouvert. L'Antarctique, c'est principalement un continent pour la recherche. Ça, c'est dans les actes de l'Antarctique. Il y a des différentes stations. Tous les pays, ils peuvent avoir une station dans l'Antarctique, mais il n'y a pas de pays qui peut avoir des militaires dans les stations de l'Antarctique. Et quelque chose qui est important, l'Antarctique, il n'y a pas de quelques pays. Pour moi, c'est rigolo parce qu'au Chili, comme on est très, très proche, dans les cartons, les maps que j'ai appris dans l'école, ils mettent l'Antarctique comme qu'il est chilien, comme qu'il est chilien. Et après, je discute toujours avec des personnes là parce que je dis, l'Antarctique, c'est pas chilien, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est fou. Et après, c'est rigolo parce que les Argentins,
Ouais.
ils mettent les mêmes parts de la péninsule, mais pas comme chilien, comme Argentin. Donc c'est rigolo que je sais pas pourquoi il passe ça.
Ben là, il y
Et
a de l'appropriation culturelle pour le coup.
voilà.
Ouais.
Mais là-bas, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de culture dans l'Antarctique. Il n'y a pas de civilisation
Bien sûr.
qui l'a rendu là. C'est un continent complètement vide. Pour dire, pas vide pour les sciences, mais vide de humanité. Et après, c'est pour ça qu'on ne trouve rien de choses archéologiques ou des choses comme
Bien sûr,
ça.
mais peut-être du pétrole.
Voilà. Et
Et ça,
après,
c'est le danger.
voilà, ça c'est super dangereux. Et aussi, on presque tous les soirs de la contamination de l'Antarctique.
Ah oui.
Toutes les choses qu'on fait dans les toilettes, on prend et on revient dans les stations
Il faut
avec
rien laisser
ça.
sur place.
Rien du tout,
C'est
oui,
ça, c'est la règle absolue.
c'est ça.
Merci beaucoup Gabriel Pinto, vous nous avez fait voyager aujourd'hui du
Merci
désert
beaucoup.
d'Atacama à l'Antarctique. Vous avez publié un article dans la revue scientifique en ligne de vulgarisation scientifique qui s'appelle The Conversation, Décoloniser les pratiques scientifiques, le cas du désert d'Atacama au Chili. J'ai quand même une ultime question pour vous. Quand vous avez proposé ce sujet à The Conversation, ils ont pris?
Oui, on a proposé le sujet, la conversation, et l'éditeur, il a dit, oui, c'est bon, c'est intéressant, mais il prend quelques temps pour être approuvé.
Parce que c'est quand même un peu touchy.
Oui, oui, c'est quelque chose...
Dans le domaine, dans le monde scientifique.
Voilà, c'est quelques topics de conversation que quand tu étais avec des amis, tu ne voulais pas initier parce qu'ils pourraient être un peu tense.
Ouais.
Et il est déjà passé dans les conférences, des fois, je vais avoir les débuts de cette conversation, de ce topic de conversation, et après, c'est tout presque temps, c'est pas très chill.
Oui. Donc, mais vous avez
et aussi, il n'y a pas de personne qui le dit, ah, tu es un néocolonisateur, ou quelque chose comme ça, et après, il dit non, et c'est la défensive. Et après, c'est plutôt compliqué.
Mais bref, quoi qu'il en soit, cet article existe. Décoloniser les pratiques scientifiques, le cas du désert d'Atacama au Chili. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel Pinto.
Merci beaucoup, Thomas.
C'était Gabriel Pinto, il est chercheur postdoctoral à l'Université libre de Bruxelles et je rappelle qu'il vient de publier en compagnie d'Adrien Tavernier de l'Université d'Atacama un article intitulé « Décoloniser les pratiques scientifiques, le cas du désert d'Atacama au Chili ». Vous pouvez trouver cet article sur la plateforme de vulgarisation scientifique en ligne de Conversation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine, au revoir.